Merci Gilles, merci à tous de m'accueillir. Je vous transmets les salutations de l'église des Bloussières. Comme pour vous, c'est la rentrée avec les activités qui recommencent et plein de beaux projets. Et nous voulons les remettre au Seigneur pour qu'il nous accompagne et puis qu'il fasse fructifier nos efforts. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce temps de culte. Merci Seigneur de nous permettre de nous approcher de toi ensemble. Et nous te demandons de nous parler ce matin. Oui Seigneur, par ta parole, veuille renouveler notre intelligence, veuille toucher nos cœurs et transformer nos vies. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. La dernière fois que j'étais ici, alors ça commence à remonter, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait commencé l'histoire de Joseph. Cette histoire qui montre comment Dieu prend soin des générations justement, Dieu qui en particulier permet aux descendants de Jacob de survivre à une terrible famine et de pouvoir ainsi, Dieu va ainsi accomplir ses projets à travers le peuple qu'il s'est choisi. Et donc cette dernière fois, on avait lu les chapitres, ou on avait parcouru plutôt, les chapitres 37 à 39. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer l'histoire avec les chapitres 40 et 41. Et au début de ce récit admirable, que vous connaissez certainement, on avait vu combien Joseph avait souffert. Ces premiers chapitres 37 à 39 relatent les tribulations de Joseph. Il a été vendu comme esclave et emmené en Égypte, puis jeté injustement en prison. Mais au temps de l'injustice, Dieu n'a pas abandonné Joseph, et Joseph a tenu bon. Il est resté fidèle à Dieu. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces malheurs que Joseph a vécu, ces malheurs, ces injustices ont mis sa foi à l'épreuve. Mais est-ce que cette mise à l'épreuve s'arrête vraiment avec la fin de ses ennuis? Est-ce que le succès prodigieux et fulgurant qu'il va connaître au chapitre 40 et 41 ne constitue pas un nouveau test de sa fidélité à Dieu? Un test d'autant plus redoutable qu'il est plus subtil que les épreuves qui le frappent de plein fouet. Quand il était esclave et prisonnier, Joseph a connu la tentation du désespoir. Le désespoir dit que Dieu n'est pas là. Mais maintenant qu'il est fait maître de l'Égypte, c'est la tentation de la suffisance qui pense ne plus avoir besoin de Dieu. Le succès, donc voilà notre thème de ce matin, et j'espère qu'il nous concerne tous. En tout cas, on le souhaite à nos enfants, à nos petits-enfants, surtout en cette période de rentrée scolaire. Régulièrement, notre société propulse du jour au lendemain des personnes au rang de célébrités, ou de millionnaires. Elles connaissent le succès. Mais on s'aperçoit que bien souvent, ces personnes ont du mal à gérer leur succès, que ça vient impacter négativement leur vie personnelle en particulier. Il suffit de quelques exemples pour se dire que oui, le succès est vraiment une mise à l'épreuve, peut-être insoupçonnée, mais pas moins réelle. Joseph, lui, garde la tête froide. Le narrateur biblique ne se prive pas de souligner combien sa réussite est éclatante. Mais en même temps, il ne manque pas de relever que Joseph, dans tout cela, n'a pas oublié son Dieu. Et donc ce matin, on va suivre ces chapitres 40 à 41. Je vais même allumer ça. Comme deux chapitres, ça fait quand même assez long, on ne va pas lire tout. On ne lira que la seconde moitié du chapitre 41. Au début du chapitre 40, vous pouvez suivre dans vos Bibles si vous les avez, Joseph est en prison, il est en prison injustement, mais Dieu est avec lui et il lui permet de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Alors le commandant de la prison lui confie la responsabilité des autres prisonniers. Deux hommes sont à leur tour jetés en prison, le chef des échansons et le chef des panetiers du pharaon. La tâche de ces hommes, ce n'était pas seulement de s'assurer que le pharaon avait le meilleur vin ou le meilleur pain, mais c'était aussi de prévenir une éventuelle tentative d'empoisonnement. Et visiblement, ils ont commis une faute, on ne sait pas exactement laquelle, mais voilà, ils se retrouvent en prison. Et là, chacun fait un rêve. Au matin, Joseph s'aperçoit qu'ils ont une mine soucieuse. Soucieuse parce que ces deux personnages n'ont personne pour interpréter leurs rêves. Or, en Égypte, comme dans d'autres peuples anciens, on accordait énormément d'importance aux rêves et c'était aux devins d'interpréter les rêves. Mais comme le panetier et les chansons sont en prison, et bien ils n'ont pas de devins sous la main pour interpréter leurs rêves et ils sont soucieux. Joseph va les reprendre avec douceur. Verset 8 du chapitre 40, il dit « N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ?» Ce ne sont pas les devins, mais c'est Dieu qui donne la signification des rêves. Et Joseph les invite à lui raconter leurs rêves, ce que fait les chansons. Joseph lui explique « Dans 3 jours, le pharaon élèvera ta tête et te fera revenir dans tes fonctions. » Le panetier entend cela et il se dit probablement « Chic, Joseph a donné une bonne nouvelle à mon tour. » Et il raconte son rêve. Et Joseph lui dit « Dans 3 jours, le pharaon élèvera ta tête. » C'est le même mot qui a été employé au sujet de les chansons. Mais la suite est différente et il te fera pendre à un arbre. Les choses se passent comme Joseph l'avait annoncé. En particulier, les chansons retournent au palais royal. Il reprend son travail auprès du pharaon. Mais au lieu de plaider la cause de Joseph, il l'oublie et Joseph reste en prison. Ce n'est que 2 ans plus tard. Quand Pharaon a à son tour des rêves étranges, que les chansons se souviennent de Joseph. Pharaon fait sortir Joseph de prison pour qu'il lui explique la signification de ses propres rêves. Et vous les connaissez, ces 7 vaches grasses qui sont avalées par 7 vaches maigres. Ces 7 beaux épis qui sont avalés par 7 épis maigres. Joseph en donne la signification. Il y aura 7 années d'abondance qui seront suivies par 7 années de famine. Et ensuite, il recommande au pharaon de choisir quelqu'un pour superviser le stockage du blé pendant la période d'abondance en prévision de la période de famine. Et c'est là que je vous propose de prendre la lecture au chapitre 41, verset 37, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre 41. Genèse donc 41, verset 37. Cette proposition de Joseph, cette proposition plut au pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le pharaon leur dit « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» Le pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et le pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur son 2e char et sur son parcours on cria « À genoux !» C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le pharaon dit encore à Joseph « Je suis le pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni se déplacera. » Le pharaon nomma Joseph Tsaphnath-Paanéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, un prêtre d'On. Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service du pharaon, roi d'Égypte. Il quitta la cour du pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit de riches moissons. Joseph rassembla tous les vivres possibles en Égypte pendant ces 7 années et il les entreposa dans les villes. Dans chaque ville, il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant. Il entreposa du blé en aussi grande quantité que le sable de la mer. Il y en avait tant que l'on cessa d'en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Avant la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, donna 2 fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond. Car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Les 7 années où l'abondance avait régné en Égypte touchèrent à leur terme. Et les 7 années de famine commencèrent, comme Joseph l'avait prédit. La famine sévissait dans tout le pays, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Quand la population de l'Égypte n'eut plus de pain, Elle en réclama à grands cris au Pharaon, qui dit à tous les Égyptiens, « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans toute la contrée. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la disette s'aggrava encore en Égypte. De tous les pays, on venait acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était grande sur toute la terre. Voilà, après tant d'années, après 13 années précisément, Joseph connaît une ascension prodigieuse et fulgurante. Il passe d'un extrême à l'autre, de la condition d'esclave prisonnier au statut d'homme le plus puissant de l'Égypte, après le Pharaon, et ce dans un laps de temps très court. Dans le parcours de Joseph, les étapes de la réussite s'enchaînent soudainement et le propulsent à la tête de l'Égypte. Mais à chaque fois, Joseph garde le cap dans sa fidélité avec Dieu. Et on pourrait décrire son parcours en 4 mots. Le premier mot qu'on peut utiliser pour décrire cette ascension de Joseph, c'est le mot « doué ». Ce qui va faire la fortune de Joseph, c'est sa capacité à interpréter les songes. C'est un don extraordinaire, un don surnaturel qui lui a été accordé par Dieu. Apparemment, Joseph connaissait la signification d'un rêve rien qu'en l'entendant. Dans le récit, Joseph ne consulte pas Dieu d'une manière particulière avant d'interpréter le rêve. Au contraire, ça lui vient spontanément et naturellement. Une personne avec de telles capacités fait certainement forte impression autour d'elle. Il aurait été facile pour Joseph de passer aux yeux des autres comme une sorte de prodige, voire de demi-dieu, avec tout le respect, la crainte, l'admiration qu'un tel statut suscite. Mais à chaque fois, Joseph donne tout le crédit à Dieu avec une simplicité désarmante. Au Pharaon qui lui dit « J'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter », Jésus répond « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. » Dans un registre moins spectaculaire, on peut aussi dire que Joseph est doué de sagesse. C'est un homme avisé. Donner une interprétation défavorable à un roi peut coûter cher à celui qui la porte. Joseph prend soin de proposer une solution au problème qu'il annonce. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura 7 années de famine qui engloutiront toute l'abondance passée. Mais la solution, c'est de stocker du grain à l'avance. C'est une solution avisée. Et comme la suite le montrera, ce plan fera la fortune de l'Égypte et la fortune du Pharaon. Le récit peint donc un portrait élogieux de Joseph. C'est un homme doué, un homme sage, un homme avisé. Et nous, que ferions-nous à sa place? Nous n'avons peut-être pas des dons aussi impressionnants que ceux de Joseph, mais Dieu n'en est pas moins l'auteur. Nous n'avons rien qui ne nous ait été donné. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous mettons en œuvre nos capacités comme si elles venaient de nous seules, ou bien en étant pleinement conscients qu'elles sont des dons de Dieu, que nous faisons fructifier, mais toujours avec son aide? Notre deuxième mot pour décrire le parcours de Joseph, c'est le mot « reconnu ». Joseph a beau être doué, mais il reste en prison pendant de longues années avant d'être reconnu. Et ce sont des circonstances extérieures, des circonstances qu'il ne maîtrise absolument pas, qui amènent cette reconnaissance. Pour sortir de prison, Joseph n'était pourtant pas resté inactif. Il s'était raccroché à la chance que représentait le chef des échansons, mais celui-ci l'avait oublié à peine dehors. Les efforts de Joseph n'avaient rien donné. L'espoir que représentaient les chansons est probablement éteint depuis longtemps, mais voilà que soudain, on entre en coup de vent dans la prison, on embarque Joseph en hâte, peut-être qu'on l'emmène chez le coiffeur avant, et il se retrouve devant le roi d'Égypte qui le consulte comme il consulte les mages et les érudits. Cette reconnaissance soudaine est le fruit d'un concours de circonstances étonnant, un concours de circonstances qui dépasse chacun des acteurs en présence. Implicitement, le récit nous renvoie au metteur en scène divin, celui qui est souverain sur le cours des événements et en particulier sur la destinée de Joseph. Dieu est l'auteur de ce revirement inattendu, au timing inattendu. Les êtres humains ne contrôlent pas leur destinée. Ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de leurs circonstances. Ils peuvent avoir l'impression que ce sont eux qui sont les architectes de leur succès, mais en fait, il y a beaucoup de paramètres incontrôlables qui sont en jeu. En lisant le récit de cette reconnaissance soudaine et improbable dont Joseph a bénéficié, nous sommes invités à l'humilité et à la gratitude quand les choses tournent bien pour nous, car c'est Dieu seul qui est souverain sur nos circonstances. Notre troisième mot est le mot « élevé ». Joseph, qui est doué, il est enfin reconnu, et la conséquence de cela, c'est qu'il est élevé par le Pharaon. Et le récit, peut-être vous l'avez relevé, le récit ne manque pas d'humour, puisque Joseph a proposé une solution à la crise annoncée, il avait fait la description du poste et du candidat idéal, il était loin de s'imaginer que ce serait lui qui serait nommé. Et pourtant, c'est à lui que le Pharaon accorde toute sa confiance. Et le début du passage qu'on a lu détaille comment Joseph est élevé, avec l'implication personnelle du Pharaon, le roi d'Égypte, qui lui dit « Je te mets à la tête de toute l'Égypte ». Il lui donne son anneau, celui qui sert à cacheter les documents officiels. Il lui donne son deuxième char. Il lui donne un nom nouveau et une épouse. Autrement dit, cet esclave qui croupissait en prison doit littéralement tout au Pharaon. Le récit a déjà mis en scène le pouvoir du Pharaon, et en particulier au début du chapitre 40 avec cette histoire de l'échanson et du panetier. Je vais juste lire le verset où cela commence. « Après cela, l'échanson du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur maître, le roi d'Égypte. » Le pharaon, en colère contre ses deux fonctionnaires, le grand échanson et le panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dont dans la prison où Joseph était enfermé. Vous ne trouvez pas que le récit insiste beaucoup sur l'expression « le roi d'Égypte » Ce roi d'Égypte qui se met en colère sans qu'on nous connaisse la raison. Les deux fonctionnaires connaissent un sort radicalement opposé sans qu'on sache pourquoi. Bref, le pharaon, le roi d'Égypte, décide de tout sans répondre à personne. Et ce sera encore plus explicite au chapitre 41. Le pharaon dit « Je suis le pharaon ». Il affirme sa prééminence, mais c'est pour y associer Joseph. Alors, cette insistance sur le pouvoir du pharaon signifie sans doute combien la réussite de Joseph est extraordinaire. Ce n'est pas n'importe qui l'a élevé, c'est l'homme le plus puissant d'Égypte. Mais en filigrane, il y a probablement une note beaucoup plus critique. Il y a ici deux maîtres. D'une part, il y a le roi d'Égypte, ce maître qui possède un pouvoir absolu sur la vie de ses sujets et qui est d'ailleurs considéré comme un dieu dans la culture égyptienne ancienne. Et d'autre part, il y a Dieu. Deux maîtres pour Joseph. Auquel de ces deux maîtres Joseph est-il le plus redevable ? Le succès, surtout quand on le doit à quelqu'un, le succès nous incite à transférer notre loyauté vers ce bienfaiteur. Il y a maintenant beaucoup à perdre à lui déplaire. Et Joseph lui-même a servi loyalement les intérêts du pharaon pendant toute sa carrière. Mais il n'a pas oublié que derrière, c'était Dieu qui était le vrai maître, le véritable auteur de son succès. Joseph dira à ses frères plus tard dans le récit au chapitre 45, il leur dira « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. » Joseph ne dit pas « Le Pharaon m'a établi maître de toute l'Égypte. » C'est à Dieu qu'il se sent avant tout redevable. C'est Dieu qui reste son premier bienfaiteur et son maître. On pourrait dire que Joseph a résisté à la tentation du transfert de loyauté du maître céleste au maître terrestre. Il est resté fidèle au maître céleste. Et puis le quatrième mot pour décrire cette ascension prodigieuse de Joseph, c'est le mot « comblé ». Joseph reçoit ce dont tout être humain peut rêver. Le pouvoir, le succès, la famille. Il reçoit un nom nouveau, une épouse égyptienne, c'est l'équivalent de notre naturalisation actuelle. Joseph devient égyptien et de façon bien compréhensible, il adoptera nombre de coutumes du pays, en particulier concernant les traditions funéraires. Au chapitre 50, à la fin du récit, on lit comment il fait embaumer Joseph à la mort de celui-ci. Donc il suit les coutumes funéraires des Égyptiens. Lui-même sera placé dans un sarcophage à son décès. Mais il va enterrer Jacob en Canaan et il fait jurer à ses descendants de ramener ses restes en Canaan. Jusqu'à la fin de sa vie, Joseph n'a pas oublié son identité. Il n'a pas oublié qu'il était citoyen de la terre que Dieu avait promise à sa famille. Et ce, malgré tout ce que l'Égypte pouvait lui offrir. Ce thème sera développé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans ce chapitre 11, ce chapitre bien connu, Joseph figure parmi les héros de la foi. Ceux qui ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui désiraient une patrie meilleure. Pour Joseph, ça s'est concrétisé par son désir d'être enterré en Canaan. La réussite, aussi éclatante soit-elle, la réussite ne lui a pas fait oublier les promesses de Dieu. Joseph a refusé de se contenter de moins que les promesses de Dieu. Il a refusé d'être complètement comblé au point d'oublier les projets de Dieu. Quand le succès nous comble, on a tendance à s'assoupir et à perdre la perspective des promesses à venir. On a tendance à oublier qu'on n'est que de passage, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. L'exemple de Joseph nous exhorte à être de bons serviteurs, ici-bas, intégrés, actifs, mais à ne pas perdre de vue que notre citoyenneté est ailleurs. Et du coup, ça va impacter forcément la façon dont on va gérer ce qui nous a été confié ici-bas. Alors, comment Joseph vit-il son succès ? Ce qui est remarquable, c'est que malgré tout ce qu'il a souffert, il semble apaisé. Joseph ne vit pas son succès comme une revanche personnelle, après toutes les injustices qu'il a subies. Non, il le vit comme une consolation de la part de Dieu, comme un réconfort que Dieu lui a accordé. À la fin du chapitre 41, il a des paroles remarquables quand il nomme ses deux fils. Il appelle le premier Manassé, et ça veut dire celui qui fait oublier, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille ou de la maison de mon père. Et puis il nomme le second fils Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond au pays où j'ai connu l'affliction. Ce que Joseph a oublié, ce n'est pas la maison de son père, mais c'est la séparation d'avec la maison de son père, ses souffrances. Dans les paroles de Joseph, l'Égypte est toujours le pays où il a connu l'affliction, et Dieu est toujours là, et c'est lui qui a consolé Joseph. Joseph voit dans sa réussite non pas une revanche personnelle, ni même le remplacement complet de ce qu'il a perdu, mais il y voit une consolation. Et là encore, nous pouvons nous identifier à Joseph. Dans notre monde si sombre, heureusement, nous vivons encore de belles choses, des succès personnels. Et nous voulons les vivre non pas comme quelque chose qui nous est dû, mais comme la consolation de Dieu. Non pas comme un accomplissement, une revanche personnelle, mais comme le réconfort de Dieu. Dieu comble ses créatures de bonnes choses, même dans un monde en proie à l'injustice, un monde en révolte contre son Créateur. Nous aussi, nous vivons séparés de la maison de notre Père. Nous traversons diverses afflictions. Mais loué soit Dieu pour la consolation qu'il nous donne ici et maintenant. Alors oui, la foi de Joseph a bien été testée. Tout d'abord par l'affliction la plus amère, mais maintenant par le succès le plus fou. Et pour nous aussi, la réussite constitue un véritable test de notre foi, car la réussite nous tente d'oublier que Dieu est le créateur de nos dons et de nos talents, que Dieu est souverain sur nos circonstances et en particulier les circonstances de nos succès, que Dieu reste notre maître, que c'est à lui que nous devons avant tout fidélité, et que Dieu nous réserve un avenir bien meilleur que nos réussites les plus éclatantes et qu'il nous appelle à vivre ici-bas dans cette perspective. Alors qu'en nous rappelant ces choses, nous puissions accueillir nos succès et plus généralement les bonnes choses que nous recevons comme autant de grâces de Dieu, ce Dieu qui nous aime et qui nous console dès à présent. Que nous puissions vivre nos succès humblement devant lui et pour sa seule gloire. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour chaque bienfait dont tu nous combles. Et nous voulons te demander ton aide, Seigneur. Aide-nous à vivre nos réussites avec humilité, avec droiture et avec une fidélité sans compromis envers toi, notre Maître. Nous voulons vivre à ta gloire. Nous voulons t'offrir, ou plus exactement te rendre, ce que nous avons de meilleur. Car tout vient de ta main. Amen.